L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Eh bien, bonjour à tous. C'est toujours Marie-Claude, abandonnée par Guylaine, qui est souffrante encore, mais je pense qu'elle ne va pas tarder à nous revenir. Et donc, je m'embarque à nouveau pour un voyage en Afrique avec vous. Et finalement, j'avais reçu la semaine dernière Jean-Michel Pratico, que je connais de longue date aussi, et qui œuvre au Burkina Faso. Et puis, on a décidé, après discussion, qu'on n'avait pas tout dit. Il nous a expliqué un petit peu sa trajectoire. Longue trajectoire, puisqu'il a 30 ans à peu près de pratique, en tout cas déjà au Burkina, hein, et plus que ça en Afrique en général. Et nous avons décidé de nous revoir. Donc, bonjour Jean-Michel.
Bonjour Marie-Claude.
Voilà, et peut-être qu'on pourrait repartir de la première expérience, le premier jumelage, la première association sur le Burkina en pays Samo, comme on disait au on a dit la semaine dernière, et que tu nous expliques un petit peu, voilà, en quoi ça consistait, qu'est-ce qui se faisait dans le cadre de ce parrainage, à quoi vous assistiez, qu'est-ce que vous pouviez aider, etc., etc. Alors voilà, je suis à ton écoute.
J'ai donc découvert le Burkina, pour faire cours son pays historique, en mars 87, et je n'y suis retourné que 5 ans plus tard, à l'occasion de notre déplacement pour le compte d'une autre association près de Montpellier, et j'ai rencontré le village de Biba, en pays Samo. C'était l'ancienne province d'Oussourou à l'époque. C'était, je dirais pas un coup de foudre réciproque, mais presque. Et quand je suis rentré ensuite en France, quelques semaines plus tard, j'ai pu créer l'association Alès Biba, en septembre 92. Le village a été officiellement parrainé par la ville d'Alès 2 ans plus tard. Et ça a donné lieu à de nombreux échanges culturels, associatifs. On a alimenté beaucoup de projets, que ce soit sur le plan santé, sur le plan agriculture, sur le plan structurel. On a, à l'époque, on a pu électrifier l'école du village ainsi que toute la partie santé. À l'époque, il n'y avait pas le courant. Hein. J'ai connu le village en 92. On était loin encore maintenant de téléphone portable, de la télévision dans les cases de chacune et de chacun.
Tout à fait, c'est comme ça aussi que j'ai connu un peu le Burkina et que, par exemple, en ville, à Bobo, ben, il avait le patron de la concession qui faisait construire des chambres-salons pour plein de gens qui louaient. Et dans la cour centrale, donc comme c'est d'usage là-bas au pays, il y avait le téléviseur et il y avait la série télévisée que tout Bobo regardait à l'époque. Et donc, c'était vraiment... Et puis en Brousse, effectivement, il n'y avait rien. Et puis dans les quartiers périphériques, dès qu'on sortait du centre-ville, l'électricité n'existait pas non plus. Donc, quand même, à ce niveau-là, ça a bien carburé.
Alors que maintenant, ils ont tous l'internet portable avec les téléphones. Et en 15 ans, ils sont passés de rien à l'internet mobile.
Tout à fait.
Ce qu'on a mis peut-être des décennies à acquérir. Ils manient ça avec une dextérité.
Et d'ailleurs, ça a été assez extraordinaire. Moi, j'avoue que au début que j'y allais, donc ça fait 25-26 ans, c'était lamentable. Les gens, quand ils faisaient une demande de ligne téléphonique, quelquefois, ça durait 2 ans avant d'avoir la ligne. Et à partir du moment où le téléphone portable s'est mis à vraiment fleurir partout et qu'il y a eu vraiment plein d'opérateurs qui, évidemment, sont allés chercher fortune aussi là-bas, ça a transformé la vie du pays, quoi. Ça a été magnifique, quoi.
Tout à fait.
Voilà. Ouais. Donc ça a permis effectivement une évolution. Ça a remplacé le tam-tam parce que ils communiquaient en brousse. Ils communiquaient en brousse avec les tam-tams, enfin en brousse de façon à distance. Ça a remplacé, mais bien avantageusement.
Oui, mais pas tout à fait, parce que lors de mon séjour en terre Samo en février de cette année, donc il n'y a pas un an. On entend encore les nouvelles qui se comportent avec le djembé. Il y a un vieux qui est mort, il y a un mariage, il y a ça, etc. Ça, certaines traditions persistent encore.
Tant mieux que les usages.
Ce qui est intéressant.
Voilà, ce qui est vraiment intéressant. Et donc là, sur le site de Biba, c'était essentiellement donc il y avait de l'agriculture. Vous assistiez.
C'est un territoire qui vit essentiellement d'agriculture et d'élevage. Un peu d'artisanat, mais surtout l'artisanat pratique pour construire des outils, essentiellement l'agriculture, qui était basée sur les cultures traditionnelles de mil et sorgho. Et quand, effectivement, la saison des pluies n'était pas très généreuse, malheureusement, les récoltes étaient encore moins. Donc notre action sur place a été de les sensibiliser, de leur montrer qu'on pouvait aussi faire autrement, sans abandonner les cultures traditionnelles, parce que c'est important aussi pour eux. Et au bout de quelques années, on est arrivé un petit peu à les motiver. Et ils ont essayé, puis ils ont vu que ça marchait bien, parce que ça produisait et que surtout ça rapportait un peu. Du coup, bah maintenant, le village, en 15 ans, a quasiment triplé sa superficie en termes de jardin maraîcher. Vraiment, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et du coup, bah, le niveau de vie des villageois s'est constamment amélioré. Les premiers temps, quand j'ai connu le village, il y a bientôt 30 ans, les enfants étaient nus, les grosses chevilles, les gros ventres de dénutrition, qu'on ne voit plus maintenant. Témoigne que le niveau de vie global du village, vraiment, s'est amélioré. Et c'est une bonne chose.
Voilà. Puis il y a eu quand même un développement harmonieux, peut-être aussi, de tout ce qui est prévention médicale, etc. Quand même, un peu.
Ah oui, après, aussi, effectivement.
Une formation, quand même, des gens.
Les dispensaires se sont structurés autrement, le soin médical aussi. Voilà. Et puis, l'État fait ce qu'il peut, mais il fait, malgré tout, au niveau des conditions sanitaires, il y a des centres de sensibilisation qui sont faits aussi sur le terrain régulièrement. Et qu'au bout d'un moment, pour d'entendre la même chose, on dit on va essayer, pourquoi pas.
Et finalement, ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Et donc, voilà. Et c'est la vallée du Sourou ? C'est la vallée du Sourou ?
Le Sourou, c'est un fleuve, une rivière.
C'est une rivière.
Qui va se jeter dans le Moon. Qui est le fleuve qui va après se jeter dans l'Atlantique en traversant le Ghana.
Oui,
et d'ailleurs, c'est les fameuses cascades de Banfora. C'est le fleuve Oun. Et le Sourou, alors c'est que quand j'ai connu Biba, c'était la province du Sourou, chef-lieu donc Thomas. Et en 95, c'était scindé en deux. Le nord est resté Sourou. Et le sud, donc, où appartient Thomas et Biba, est devenu la province du Nayala.
Parce que la vallée de Sourou, c'est là où il y a du riz aussi.
Il y a le riz, il y a vraiment des centres agricoles qui sont très intéressants.
Oui, parce qu'il y a quand même du très bon riz qui se fait au Burkina Faso.
Il faut être à côté du cours d'eau.
Il faut être à côté du cours d'eau, bien sûr, et c'est du très bon du riz. Ça a été une grande politique à l'époque, même coloniale, je crois, qui a
favorisé. À Biba aussi, à temps en temps, il y a du riz qui est cultivé. C'est du riz vraiment, du riz pluvial, qui est spécifique, où il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. Ça dure 2-3 mois, mais ouais, les récoltes sont intéressantes. Ça fait un plus pour le village qui n'est pas négligeable.
Et alors, ce qui est dommage, c'est que ce riz est délicieux, mais que finalement, le riz chinois, asiatique, fait concurrence, évidemment, avec des prix, et que souvent, c'est ce riz-là que consomment les gens, alors qu'à côté, ils ont du riz. Ben, c'est comme ici, chez
nous. On a des
produits locaux, et puis qu'on va chercher du moins cher. Voilà. Et c'est vrai que quelquefois, moi, je sais que j'en ai goûté, mais il n'y en a pas partout. Enfin, il faut un peu déjà. J'en ai goûté qui venait directement de la vallée.
Exactement,
c'est du très, très bon riz. Et donc, vous les aidiez un petit peu dans leur projet, dans leur construction.
On les a accompagnés.
Voilà, vous accompagnez, oui, pardon, c'est vrai. Et il y avait également un système de pour les enfants, un parrainage.
C'est vraiment un projet qui dure depuis plus de 20 ans maintenant dans le village. On est en place d'opérations de parrainage d'enfants, d'enfants orphelins, de père et de mère, ou d'enfants dont les parents sont handicapés. Parce qu'ici, il n'y a pas d'aide pour le handicap, malheureusement. Là-bas, il n'y a pas d'aide pour le handicap. Les enfants orphelins sont placés dans des familles d'accueil, qui sont souvent des grands-parents ou les oncles et des tantes. Et du coup, qui eux-mêmes ont leurs enfants à scolariser. Donc ça fait un surcoût pour ces familles. Ils disent quoi, du coup, bon, s'il faut qu'ils fassent un choix, privilégier leurs propres enfants à être scolarisés plutôt que les enfants du frère ou de la sœur qui est décédé.
Mais c'est ça.
Voilà. Du coup, on a mis en place ça et ça se passe plutôt bien. On a des retours intéressants. Maintenant, on a quelques élèves à l'époque qui ont grandi, qui sont chefs d'entreprise, juristes, etc. Donc,
et qui sont reconnaissants,
qui même font justement après la promotion de ça au travers des jeunes restés au village. Et c'est vraiment une belle opération.
Ça, c'est vraiment très valorisant. Et puis, comme je le disais la dernière fois, ce qui est intéressant aussi pour les enfants, comme ça peut l'être pour un village ou pour un groupe, c'est que se sentir reconnu. Sentir qu'il y a des gens qui sont là, qui se préoccupent, puisque bon, la somme qu'on remet mensuellement pour aider l'enfant dans sa scolarité, enfin pour lui permettre d'aller à l'école et d'acheter tout ce qu'il faut, c'est vraiment
valorisant. Je vais rebondir mensuellement, tu penses, mais au parrain ici. Alors, nous, c'est une somme qui est remise pour l'instant de façon annuelle, on s'est parti le calcul sur le juste prix du coût que coûte la scolarité en primaire, en secondaire, d'accord, au lycée, sur place. Donc on est à peu près à un maximum de 80 euros par an de parrainage.
Oui.
Et quand je vois certaines d'autres associations qui font le même travail, qui on est c'est par trimestre ou des fois par mois. Bon, après, par contre, on n'a pas de frais de fonctionnement. Nous, c'est-à-dire qu'un euro qui nous est versé, c'est un euro qui repart au village et qui est versé à la caisse populaire de Biba pour le parrainage des deux villages qu'on soutient, Biba et le lac qui est à côté.
Et c'est bien de dire ça parce que c'est quelque chose que je dis souvent, mais pas forcément ici. Maintenant,
ça fait un appel au.
Voilà, sur l'antenne. Non, non, mais c'est bien de dire ça parce que c'est la différence justement entre les grosses ONG qui ont des calendriers, des 4x4 là-bas avec des gens qui vont visiter, etc. Les petites associations comme les nôtres, justement, comme celle-là, sont des associations où il n'y a pratiquement pas de frais de fonctionnement et où tout l'argent qui est remis, il repart, il n'est pas, il y a pas.
On a des frais de fonctionnement, mais pas pour le parrainage.
Voilà, pas pour
le
parrainage.
Quelqu'un qui donne un euro, l'euro part là-bas.
Ouais.
Voilà.
Ouais, mais tu vois, nous c'est pareil, c'est le parrainage, c'est l'assurance, le site, un petit site internet qui coûte 3 francs 6 sous. Il y a quelques bricoles comme ça obligatoires, hein, sinon il n'y a rien du tout après. Les frais bancaires pour les virements, le minimum aussi. Voilà. Donc c'est sûr que voilà, c'est tout ça, c'est pour répondre. Des fois les gens me disent oui, mais tu sais, moi déjà je donne à machin. Alors, je ne dirais pas des grosses ONG que je connais. Hein. Mais voilà, et nous, c'est la grosse différence, c'est que vraiment, tout repart là-bas. Il n'y a pratiquement rien qui est dépensé pour un peu se montrer, etc. Alors, c'est sûr que ce n'est pas du tout la même politique, peut-être, mais quand on a la chance d'avoir quelqu'un à côté qui est proche comme ça, peut-être qu'il faut s'en servir.
Tout à fait.
Voilà. Et alors, maintenant, peut-être on pourrait passer un peu à l'artisanat, parce que l'autre jour, nous avons parlé de l'artisanat, et c'est vrai que, par exemple, quand on va, entre autres, alors, quand on va à Boubou, bon, c'est essentiellement le quartier près de Diola Soba, la mosquée. Il y a le quartier des Potières.
Hein.
Après, il y a aussi le quartier des Bronziers, qui font des choses magnifiques. Enfin, vraiment, on est toujours époustouflés. Donc, c'est vrai que là-bas, l'artisanat, c'est de l'art. Et d'ailleurs, même chez nous, hein, l'artisanat d'art, maintenant, on fait de plus en plus d'expositions d'artisanat d'art, parce qu'on se rend compte très bien quand même qu'il y a des gens qui sont pratiquement des artistes, hein, voilà, qui fabriquent des objets, voilà, et qui sont alors des artistes. Alors,
et à Bobo, j'ai rencontré aussi, bon, plus des bronziers et des potiers, des sculpteurs. Sculpteurs et d'artistes
tout père, à fait.
Qui interviennent au centre Tabataba à Bobo et à Ouaga. Donc on a pu rencontrer des artistes qu'on connaît déjà depuis quelques années au centre artisanal de Ouaga, y compris au village artisanal. Et chaque fois qu'on rencontre ces artistes, malheureusement, ils déplorent la situation actuelle qui fait que il y a beaucoup d'Européens qui vont là-bas. Donc du coup, l'artisanat a du mal à se vendre et s'écouler. Bon, à force de les entendre, et j'aime bien ce qu'ils font, surtout quand j'y vais, j'achète un peu, mais je ne peux pas non plus acheter chaque fois toute la boutique, sinon c'est compliqué, sinon c'est moi qui vais faire un projet après pour m'aider après. Bon, la parenthèse voilà, dérisoire. Et l'idée est venue donc de trouver un système pour les faire travailler, et donc du coup on a eu l'idée de créer une association qui a été créée à Montpellier le 20 novembre de cette année, donc
toute nouvelle,
qui s'appelle Artisans du Faso. Le but donc c'est de promouvoir le travail des artisans du Burkina, quel qu'il soit, quel que soit l'artisanat, pour arriver à le commercialiser dans la région Occitanie et en France. C'est pour ça, dans cette optique-là, j'ai été mandaté par la ministre burkinabé déléguée à l'artisanat, qui est une SAMO, à y être.
Comme par hasard.
pour promouvoir justement l'artisanat dans notre région et en France. Donc on va arriver à mettre en place un système d'achat au juste prix, sur place, afin de vraiment respecter le travail passé et valoriser ce qu'ils ont fait. Mais pas non plus trop cher. Pour nous, ça sera revendu ici à un prix accessible, abordable à tout le monde, et vraiment remettre en route une activité économique qui nous permettra à eux de vivre de façon décente et d'en faire du coup faire vivre leur famille, leurs enfants. Donc on est dans ce registre-là. Et dans ce projet, donc, j'ai fait réaliser un film au Burkina en septembre, un film qui s'appelle Les artisans du Faso, réalisé par un professionnel, le journaliste à Burkina Info, monsieur Abel Yerbanga, qui par sa jeune société de production, AB Production, a réalisé un court-métrage de 15 minutes qui fait focus sur deux artisans, deux artistes au centre artisanal de Ouaga et deux artisans au centre, au village artisanal. Mmh. Vous avez un bronzier, un artiste, une tisseuse et un artiste qui travaille sur le Bogolan. C'est très, très intéressant. Mmh. Voilà. Et ce film a été présenté donc, en octobre à Montpellier, dans le cadre du Festival du cinéma, un peu en amont du sommet Afrique-France qui s'est tenu à Montpellier. Mmh. Et notre association GPTO International, je suis en fait, j'ai la force de mettre d'avoir des casquettes, je commence à avoir
tortillé. Non mais moi ça ne me gêne pas, je te les change sur la tête sans problème.
Et d'ailleurs tu étais venu assister à une conférence qu'on avait organisée au département sur l'augmentation de l'espérance de vie en Afrique. Mmh. Et les effets socio-économiques, on a fait intervenir un sociologue qui était venu du Burkina, spécialement pour la circonstance. Et donc là aussi, c'était aussi en prélude au sommet Afrique-France qui s'est tenu à Montpellier quelques jours plus tard.
Mmh. Oui, voilà, bon, c'est une bonne transition, on va en parler. Et c'est vrai que quand on se rend là-bas, on est toujours saisi, au centre d'artisanat, tout ça, on est toujours saisi de la qualité, enfin vraiment, de la créativité, de la qualité, c'est assez fabuleux, quoi. Il y a une richesse vraiment.
Je me suis permis de poser la question l'autre fois, j'ai dit, mais puisque vous ne vendez pas, pourquoi vous produisez toujours? Ils m'ont dit, mais monsieur Pratico, si on ne produit pas, on ne crée plus, on meurt. Mmh, c'est-à-dire que pour eux, c'est important de produire et de créer. Ouais. Et j'ai trouvé ça, c'est une motivation supplémentaire.
Mmh. Et c'est saisissant. Et c'est vrai que, par exemple, pour ne parler que du quartier des Bronzés de Bobo, franchement, on les voit, souvent, ils sont au travail et tout, même les potières, on les voit sortir leur peau là, dessous la cendre et tout ça, on est absolument fascinés, quoi, hein, vraiment, de voir tout ça et de voir ces talents, quoi, ces talents qui souvent s'ignorent, parce que pour eux, au départ, c'est aussi gagner sa vie, quoi. Hein. Après, effectivement, pouvoir répondre à un blanc qu'on a besoin de créer. Alors, quand on connaît des artistes, on sait que souvent c'est le cas. D'ailleurs, j'ai besoin de créer pour vivre, pour survivre. Mais je veux dire, de permettre ça, je trouve que c'est extraordinaire. Quoi. Voilà, mais ces personnes-là,
on arrive à le dire, c'est qu'effectivement, il y a quelques années qu'on se connaît. Chaque fois que j'y vais, ben, j'achète une composition. C'est très joli ce qu'il fait. Donc, pour l'aider aussi en même temps, voilà, parce que ça me plaît, puisque ça permet de l'aider aussi. Mais je ne peux pas non plus aider tout le monde, donc j'espère que l'association va pouvoir
arriver. On est limité.
On est bien d'accord, voilà.
Oui. Ouais. Personnellement.
L'association va pouvoir aussi, du coup, permettre de mettre en route ce projet, voilà.
Ben, on va rester à l'écoute, en tout cas. Bon, et alors maintenant, on va peut-être aborder, pour la dernière partie de l'émission, on va peut-être aborder quand même un sujet qui n'est pas facile, où on va peut-être échanger un petit peu tous les deux aussi là-dessus. Donc, il y a eu, comme tout le monde le sait, le sommet Afrique-France à Montpellier.
C'est dans l'Afrique dans tous ses états.
Voilà, donc c'était l'Afrique dans tous ses états. Nous étions ravis. Nous avions fait, dans le cadre de cette émission, enfin, Gazette Africa, qui était très bien, parce que ça donnait la parole justement aux acteurs, à des gens, à du vécu, hein, pas des conférences officielles, mais plutôt des gens qui racontaient un peu leur vécu, leur combat, etc. Et on sait donc tous les deux, et puis sûrement beaucoup de gens savent que ce sommet a suscité beaucoup, pas mal de polémiques, pas mal de commentaires, pas mal de doutes, pas mal de rejets, enfin ça a été assez passionné, passionnel.
Comme chaque fois.
Voilà, comme chaque fois. Et donc, oui, il y a un chapitre là de l'histoire, de notre histoire coloniale qui est loin d'être terminée, semble-t-il, même si le président a eu des discours pour dire qu'effectivement il fallait changer, que peut-être ça avait commencé même par des prédécesseurs qui avaient peut-être changé.
Je pense que si je peux...
Oui, vas-y.
C'est que l'histoire coloniale, au bout d'un moment, ça va changer parce que, surtout au niveau du continent africain, tout ce qui ont connu la période coloniale, il n'en reste plus beaucoup.
Il n'en reste plus beaucoup.
Il n'en reste plus beaucoup. Tous ceux qui sont nés un peu après, il en reste encore, mais ils sont moins imprégnés. Mmh. Et au fil des générations, ça va s'étendre. On le voit quand on discute avec les jeunes, la jeune génération, qui sont vraiment plus dans cette optique-là. Mmh. Ils sont peut-être moins dans un esprit de revanche que l'ont connu ceux qui ont connu la période d'indépendance ou un peu après. Mmh. Alors, je dis pas qu'ils sont forcément tout beau, tout rose. Hein, d'accord. Mmh. Mais je pense qu'ils sont, plus dans la recherche de partenariat, gagnant-gagnant, pourquoi pas, plutôt que de demander à papa français qu'est-ce qu'on fait. Je crois qu'ils n'ont plus envie de ça. C'est vraiment un vrai travail de collaboration, de partenariat, d'accompagnement, parce qu'ils sont conscients, malgré tout, que bon, il y a encore peut-être malheureusement quelques moyens qui manquent. Mais je les sens moins en demande d'attendre que le blanc y donne. je parle comme ça parce que c'est une réalité, hein, je ne sais pas du coup, péjorative pas, tu me connais assez.
Non, c'est comme ça que ça se passait surtout, c'est
Et ça se passe encore un peu, mais quand on voit la génération intermédiaire ou un peu avant. Chaque génération n'est plus dans ce registre-là. C'est tout moins mon ressenti sur le terrain, parce que malgré mon grand âge pour là-bas, je rencontre des jeunes générations dans le cadre des activités associatives et de coopération qui sont plus dans ce travail de... On veut vraiment travailler ensemble, mais pour aider nos jeunes à rester, par exemple, au pays et y vivre, et plus partir de la grande ville, etc. Voilà. Ils ont, à mon avis, c'est en train de bouger.
En train de bouger.
Enfin, c'est mon ressenti.
Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'on peut penser, ça bouge, mais comme ça bouge aussi encore par rapport peut-être aux générations un peu d'avant, les jeunes de maintenant, avec vraiment cette espèce de rejet et tout ça, qui d'ailleurs est fondé au départ, mais en même temps, à un moment... Ma question, c'est est-ce que ce n'est pas au détriment aussi de faire, d'avancer, de faire quelque chose ?
C'est ce que certains disent sur place.
Oui.
Ne vous trompez pas de combat.
Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et alors, ce qu'ils racontent, ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est que là, ils ont créé une unité, là, ils ont fait un sommet, je ne sais plus. Alors, il y a le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina qui ont créé une unité de combat.
Oui, tout à fait, j'ai entendu ça.
Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est où, il y a deux ou dedans. Et apparemment, ils ont déjà bien détruit plusieurs camps.
Oui, tout à fait, oui, parce que le problème, c'est que... Alors, peut-être que je transgresse, mais la France ne parle que des attaques dirigées contre des Burkinabés. Par contre, nous, on est au courant des succès militaires burkinabés ou autres, parce qu'on est à l'écoute de l'actualité sur place. Mais sinon, vous n'avez jamais le Figaro, va dire, le Burkina a neutralisé 40 terroristes. On le sait parce qu'effectivement, on est à l'écoute de certains médias locaux. Je trouve que c'est dommage.
Et ce qui est intéressant, justement, c'est que finalement, tout ça, ces opérations ont eu lieu avec les fonds des nationaux, c'est-à-dire c'est pas du tout, il n'y a eu aucune aide internationale qui est intervenue.
Je pense que les choses sont en train de bouger,
vraiment. Et donc ça donne, moi, à mon avis, ça donne de l'espoir. Alors il y a beaucoup de régions encore où ça flambe, des pays où c'est très dur, et voilà. Et c'est vrai que ce sommet, donc, qui se voulait différent, puisque n'ayant pas d'invités de chefs d'État, etc., et que soi-disant la société civile, il a fait couler beaucoup d'encre, il a critiqué, il a été... Parce que est-ce que c'est quelque chose qui va permettre un changement ou... Voilà, après...
Alors, j'étais présent toute la journée à l'Arena. J'étais présent donc au débat qui a eu l'après-midi entre président Macron et des jeunes venus du continent africain. Il n'a pas été épargné par les jeunes. Est-ce que c'était monté ? J'en sais rien.
Il y en a qui disent que c'était monté. Bon, mais en fait, ce n'était pas flatteur quand même pour lui.
On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais il a eu de réponse. Bon, on connaît la technicité oratoire du président. Heureusement d'ailleurs pour lui, en tant que président. Il y a une chose qui a été reprochée, surtout, c'est le fait de changer le nom. En fait, on n'a fait qu'inverser les deux noms, Afrique-France. On dit, mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. Alors, je pense que le fait de changer le nom correspond à un but, un objectif qu'il a, qui va peut-être se mettre en place. Et du coup, j'ai pensé, alors je ne suis pas décisionnaire au niveau international, loin de là, mais pourquoi ne pas le qualifier, par exemple, les assises de la coopération.
Par exemple, oui.
Voilà. Et du coup, inclure là-dedans le continent asiatique et le continent sud-américain, qui ont aussi des partenariats de coopération avec la France ou d'autres pays européens.
Et qui ont des combats très intéressants, souvent. Enfin, moi, je connais surtout l'Amérique latine, l'Asie moins. Et ils ont des combats très intéressants qui peuvent servir
ce qui permettrait de,
à tout le monde.
Ce qui permettrait de moins, du coup, moins montrer du doigt l'Afrique. Et même si c'est fait chaque 2 ans, par exemple, peu importe, et de mettre, chaque fois qu'il y a un sommet, un continent à l'honneur, par exemple, mettons l'Asie, ça n'empêche pas de travailler toujours avec l'Afrique, l'Amérique latine, etc., mais de modifier les choses. Et ça peut être intéressant aussi pour les autres continents en question, de montrer qu'on est vraiment sur autre chose. Et pourquoi pas faire ça à l'échelle européenne.
Et
du coup, ça permettra par rapport à l'Afrique, ça permet, parce que bon, c'est l'objet de notre rencontre de cette semaine, ça permettrait de lever cette espèce de main levée apparente de la France sur le continent africain. Parce qu'on parle de la France, mais il n'y a pas que la France. Hein. D'autres pays essaient de...
Il y a d'autres pays aussi, voilà, qui sont...
Notamment pour, les Chinois, pour ne pas les citer, et la Russie et aussi. Les Russes, ouais. Voilà, il faut appeler un chat un chat.
Oui, c'est vrai que ce serait une belle façon. Et puis, moi, je pense que pour la France, pour aller un peu plus loin, ça permettrait peut-être de sortir la France et l'Europe. D'ailleurs, quand on prend l'Amérique latine, quand même, il ne faut pas oublier que le génocide des Indiens a été le plus grand génocide du monde. On oublie souvent. Et pourtant, ça a été une extermination d'une race quasiment, quoi. Oui. Donc, et que les survivants, ils essayent
après,
de...
C'est un autre débat, après, on pourrait parler.
Oui, non, mais pour dire que, voilà, on est quand même...
Et que chaque pays est responsable de... Les États-Unis par rapport aux Indiens.
Tout à fait, que les gens ont des choses à se dire à ce niveau-là, quoi.
Tout à fait.
Voilà, donc, bon, c'est un vaste sujet aussi, mais tout peut-être qu'on refera une émission là-dessus, Jean-Michel.
Tout à fait, avec plaisir.
Avec plaisir. Donc, on va conclure là. C'était, on a bien fait de se revoir, d'accord, hein.
Tout à fait,
c'était
un vrai plaisir.
Au départ, on s'était mis, après on s'est dit non, une fois, c'est pas assez.
C'était un vrai plaisir.
Voilà, donc, merci Jean-Michel pour cette rencontre,
merci,
cet éclairage et ce partage, parce que voilà, chaque fois, ça fait vibrer des choses chez moi. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je fais un petit coucou à ma partenaire de voyage qui ne m'a lâche pas abandonné cette semaine, la pauvre. Voilà, je remercie le technicien en chef, monsieur William. Et Jean-Michel, tu nous annonces le prochain morceau de musique que tu as choisi.
Alors, le prochain morceau, c'est un jeune artiste burkinabé. Qui s'appelle Floby. Alors, je n'ai pas mémorisé le nom du morceau.
Oui.
Que j'ai vu sur scène il y a 2 ans.
Oui.
Qui a percé en même pas une dizaine d'années au Burkina, qui fait vivre toute la jeunesse burkinabé. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé son style.
D'accord. D'ailleurs, je l'ai découvert parce que je ne le connaissais pas. Et voilà, il y a un super morceau qui vous attend. C'est dommage que vous n'ayez pas les vidéos parce que la vidéo est superbe. Mais déjà, le son, ce sera bien. À la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre écoute. Et voilà, et passez une bonne semaine. Au revoir à tous.
Winner, winner, with a calibre.